Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la JT du local de ce jeudi 10 mars. Je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle émission autour de l'actualité en Mayenne et notamment aujourd'hui au bord des terrains de sport pour faire du sport partagé. Et oui, différemment que du sport adapté qui s'adapte aux personnes en situation de handicap. Là, c'est du sport partagé où des élèves au parcours plus classique, on va dire, partagent le même moment sportif que des élèves en situation de handicap, et ça marche bien, ça marche même très bien. On va voir ça au collège Jules Ferry de Mayenne, et puis on va aussi se rendre du côté de Laval pour parler du bateau Lavoir le Saint-Yves qui sera rénové, la municipalité l'a en tout cas assuré, d'ici 3-4 ans. Et on va entendre les conclusions, enfin, l'avis en tout cas, pas forcément les conclusions, mais l'avis de l'expert du ministère de la Culture, Jean-Louis Doga, qui est intervenu hier lors d'une réunion publique. Et puis comme chaque jeudi, on va aussi continuer notre cycle de reportages autour du thème, très large thème, pensée locale. Et on va se rendre aujourd'hui du côté du pays de Ré, donc qui est une partie de la Loire-Atlantique, à la rencontre des journalistes locaux de ce territoire. Et puis on va poursuivre notre feuilleton commencé cette semaine autour des associations qui constituent le collectif UND, Unissons nos différences. Et aujourd'hui, on zoome sur Questandi, qui cherche à adapter en tout cas au maximum les événements culturels aux personnes en situation de handicap. Ça, ce sera en fin d'émission. D'abord, on va commencer comme chaque jour par un point sur l'actualité avec Guillaume Garot qui demande le blocage des prix de l'essence à la pompe. Le député socialiste de la Mayenne a demandé hier au gouvernement de mettre un coup d'arrêt à la flambée des prix du carburant, notamment en diminuant la TVA et la TICPE, la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques, qui représenterait 60% du prix total selon l'élu. Il avait déjà appelé en février dernier à des mesures de compensation directe pour les particuliers qui prennent leur véhicule pour aller travailler et notamment les aides à domicile. En Mayenne, près de 500 contributions aux états généraux de la santé depuis leur ouverture il y a quelques semaines sur le site du département. En parallèle, les réunions publiques participatives se poursuivent et les prochaines, c'est ce soir à 20h à la salle communale de Montenay et à la salle du Mûrier à Cran. Pour y participer, il faut s'inscrire auparavant en ligne sur lamayenne.fr ou bien par téléphone au 02 43 66 53 53. Au foin de la rue devient Manufacture de proximité, un label attribué à l'association organisatrice du Festival de Saint-Denis-de-Gâtine dans le cadre du plan France Relance pour soutenir le projet développé dans leur futur lieu, avec au programme des ateliers de construction de scénographie, l'accueil de compagnies artistiques en résidence ou encore une ressourcerie de matériel. Pas de panique si ce matin vous avez entendu une grosse détonation dans le ciel, dans l'ouest du département. Il s'agirait d'un avion de chasse de l'armée de l'air ayant franchi le mur du son à plus de 9000 mètres d'altitude pendant sa mission d'entraînement, selon la préfecture du Calvados, donc sur son compte Twitter. Ce jeudi, c'est la journée de la diversité à l'Estaca à Laval. L'école organise une journée donc dédiée à cette diversité sous toutes ses formes, comme l'égalité des chances, l'égalité femmes-hommes, l'accessibilité au sport ou encore l'insertion sociale. Au programme notamment des ateliers Laval Virtuel et Handisport cet après-midi, mais aussi une conférence avec Vladimir Vinchon, champion paralympique d'équitation. 37 820 euros, c'est le prix record à laquelle a été vendue une œuvre de Robert Tatin hier à l'hôtel des ventes de la Mayenne. C'est une peinture appelée Arcane 21 qui date de 1968. Cette œuvre du peintre de Caussy-le-Vivien provenait de la collection personnelle d'un particulier. Et puis plus de 2400 collégiens mayennais l'ont adopté. Le sport partagé a de plus en plus d'adeptes, notamment au collège Jules Ferry de Mayenne. C'est l'établissement où il y a le plus de participants lors des compétitions qui mêlent élèves en situation de handicap et élèves au parcours plus classique, entre guillemets. Reportage lors d'un run and bike au bord du terrain tout près du collège avec Pascal Lester. C'est le responsable départemental de l'UNSS, l'Union Nationale du Sport Scolaire.
Allez, Kylian ! Allez, Kylian ! À chaque fois qu'il y a des activités sportives de proposer dans l'établissement, les élèves des classes de SECPA ou du LIS sont invités à participer au même titre que les autres, aux mêmes activités, dans les mêmes conditions. Concrètement, les élèves viennent, veulent participer à une manifestation organisée par l'UNSS, par exemple. Eh bien, l'établissement inscrit ses équipes et les élèves en situation de handicap s'inscrivent de la même façon que les autres, sont adhérents à l'association sportive et viennent et participent aux compétitions comme les autres. On n'adapte pas, justement. C'est parce que ça n'est pas du sport adapté, c'est du sport partagé. Ça veut dire que si on prend l'activité qu'on fait aujourd'hui du run and bike, donc de la course à pied et du VTT, eh bien le parcours est le même pour l'élève valide que pour l'élève en situation de handicap. Et ils font tous les deux la même chose. Alors, il y en a un qui parfois a un peu plus de mal que l'autre, mais ce n'est pas forcément toujours celui qui est le valide qui est le plus à l'aise. C'est vraiment fait en sorte pour que tout le monde fasse exactement la même chose, sans distinction. Sur le département, ouais, ça se développe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, on propose du sport partagé en cross, en run and bike, en triathlon, en badminton, en tennis de table, en laser run, en course d'orientation. Et puis c'est bien parce que parfois, vous avez aussi des élèves qui ne sont pas forcément des champions du monde et qui se disent « Ah, si je fais la compétition haut niveau, je ne vais pas forcément briller. » Mais l'esprit, la philosophie de dire « Je vais partager quelque chose avec mes potes qui sont peut-être plus en difficulté physiquement. » Eh bien, ça fait qu'on a des équipes qui se créent et les deux progressent, aussi bien l'élève en situation de handicap que l'élève valide qui, par sa motivation, progresse et finit par avoir des résultats qui, à Jules Ferry, sont probants puisque sur les 4 dernières années, ils ont fait 4 fois des championnats de France, dont un titre de champion de France en tennis de table. Ça prouve qu'ils peuvent le faire et puis ça ruisselle sur l'ensemble de l'établissement puisque les cours de PS ici sont gérés pour les classes de SECPA et du LIS par les professeurs de PS. Ça se retrouve aussi dans la cour de récréation, ça se retrouve sur les animations. Monsieur le principal organise tout un tas d'autres manifestations, du théâtre et autres, et on retrouve les élèves aussi.
Et d'autres compétitions de sport partagé vont être organisées jusqu'à la fin de l'année scolaire et notamment une compétition de pétanque à laquelle participeront certainement certains collégiens de Jules Ferry à Mayenne. On va parler de ce devenir et de l'avenir du bateau La Voile Le Saint-Yves à Laval alors qu'il était à l'abandon depuis plusieurs années. Ça y est, les élus se sont engagés à le rénover dans les prochaines années, à le restaurer. On en parle juste après avoir écouté Céleste avec Stop This Flame.
Goes up, my heart goes down. We fall in love and we fall back out. I'll give you anything you want, anything you want, anything, anything. Just don't tell me no. You stop it still, then you make it rush. You're like a pill that I just can't trust. You tell me to stop, but I keep on going. But I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this day. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this day.
Flame, Céleste est dans la JT du local sur l'autre radio. Une bonne nouvelle aussi pour le bateau lavoir, le Saint-Yves à Laval. Il va pouvoir être restauré. Confirmation de la municipalité lavalloise hier, lors de la réunion publique organisée avec l'expert maritime du ministère de la Culture, Jean-Louis Doga. Aujourd'hui entreposé sur une parcelle près de la route de l'Huisserie à Laval, ce bateau lavoir va donc être restauré et remis à l'eau près de la halte fluviale. Mais avant ça, Jean-Louis Dogan précise à notre micro ses différents avis donnés sur le bateau lavoir Saint-Yves avec son œil d'expert.
Alors je m'appelle Jean-Louis Dogan. Professionnellement, je suis retraité après un parcours un peu particulier, mais tourné vers la mer. Et depuis 2006, le ministère de la Culture a considéré qu'il m'agréait comme expert pour le patrimoine maritime et fluvial. Donc uniquement auprès du ministère et de la DRAC, c'est-à-dire que je n'agis que sur une demande de la DRAC.
Comment ça se passe très concrètement? C'est-à-dire qu'il vous envoie sur tel ou tel dossier, chantier?
Alors je précise que dans la réunion d'aujourd'hui qui était faite à la demande de la ville, je n'étais pas le porte-parole de la DRAC. De toute manière, je suis pas porte-parole. Hein. Je suis conseiller, mais pas porte-parole. Donc comment ça se passe d'habitude? Et, en fait, je suis concerné surtout, par, enfin uniquement quasiment, par des bateaux classés monuments historiques. Et j'interviens soit lorsqu'on demande le classement, je donne un avis sur l'intérêt patrimonial du bateau, soit lorsqu'on demande des travaux et des financements pour ces travaux, ou pas d'ailleurs. Les financements et l'autorisation ne vont pas forcément ensemble. Soit lorsqu'il y a un bateau qui est en état d'abandon, ou il m'arrive même de conseiller des procédures de mise en place, enfin si vous voulez, assez souvent, autour d'un bateau qu'on restaure, il faut mettre en mouvement une communication, convaincre des élus, soutenir ou pas des associations, etc. Bon, et puis c'est un peu dans ce cadre-là que j'interviens aujourd'hui.
Là, le bateau, le Saint-Yves, c'était la première fois que vous le voyez en vrai aujourd'hui ou vous êtes déjà venu?
Non, en fait, je suis déjà venu avec une mission DRAC qui me consultait sur l'état, 3 ans après ou 4 ans après, une étude, un diagnostic d'état sanitaire sur l'évolution qu'il y avait pu y avoir et sur les mesures à prendre. Voilà, c'était ma première visite, ça c'était en octobre. Je connaissais de nom, si je puis dire, les bateaux lavoir. Je n'en avais vu que des images. Et en fait, vous avez, pas les deux derniers, parce qu'il y en a 3 en fait, mais parmi les 3 restants, vous en avez 2, et le 3e étant en acier et pas en bois. Et parce qu'il n'en reste qu'ici, c'est une particularité d'ici, vous avez la chance exceptionnelle de les avoir conservés, et puis de vouloir les remettre en Mayenne.
Donc justement, si on veut les remettre en Mayenne, ce bateau Saint-Yves, il s'est avéré qu'il était très abîmé. Est-ce que c'est possible? Dans quel état déjà vous l'avez trouvé avec votre œil d'expert?
Alors, d'abord, je ne suis pas intervenu, enfin la première fois je suis intervenu justement pour avoir une idée de l'état général. Aujourd'hui, je ne suis pas intervenu pour ça, je suis intervenu pour expliquer pourquoi et comment la démarche serait longue. Alors, j'en reviens maintenant à la première visite, la visite technique. En fait, il est coupé en 2 morceaux, c'est-à-dire qu'il y a le flotteur, le bateau qui est d'un côté, et puis les locaux qui sont montés sur le bateau qui sont à côté dans le champ. Bon, j'ai d'abord regardé les flotteurs, c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est en principe mon champ de compétences, et j'en ai conclu que le flotteur, tel qu'il avait été conçu et dans l'état où il est actuellement, il est à réformer. Ça veut dire qu'une restauration de l'ensemble passera par ce qu'on appelle la restitution, c'est-à-dire la fabrication à neuf d'un nouveau flotteur. Voilà pour le flotteur. Quant au bâtiment, ben, c'est autre chose, ils ne sont pas très abîmés, ils ont pas mal vécu. Ce sont des constructions extrêmement simples, c'est construit comme une cabane de jardin, il n'y a pas de structure dedans, ou très très peu. C'est même construit de façon moins liée qu'un meuble, si vous voulez, c'est-à-dire que ça peut se déformer, et c'est peut-être bien volontaire, parce qu'un bateau qui ressemble à un couvercle de boîte à chaussures, ça se déforme sur l'eau. Et donc il faut que le bâtiment qui est posé dessus soit capable d'encaisser ces déformations, donc il faut qu'il soit souple aussi. Voilà, les premiers gestes de conservation immédiate ont été faits, enfin à 2-3 bricoles près, c'est-à-dire le maintien à l'abri du bateau du fait de la restauration de sa toiture et de l'écoulement des eaux pluviales, le réalignement des poteaux, puisque les locaux étaient posés sur un terrain inégal, les 18 pieds parce que ce sont des pilotis, hein, 18 pieds, des locaux n'étaient pas tous au même niveau et ils ont été recalés de façon d'une part à être alignés et d'autre part à être isolés du sol pour éviter que la pourriture ne remonte dans le bois. Alors, il reste évidemment le problème de l'aspect de surface des parements, enfin des bardages sur lesquels la peinture s'écaille, mais le bois qui est derrière, c'est d'abord, il est sain. Ensuite, c'est un bois qui a quelques années, donc qui est d'une qualité qui fait qu'il supportera les épreuves quelque temps. Il n'est pas question d'aller refaire une peinture maintenant, alors qu'on ne sait même pas quelle sera la couleur définitive, ni les choix définitifs en termes de qualité de peinture, etc. Donc j'ai donné 2-3 propositions, enfin on a discuté techniquement, 2-3 propositions qui permettent de protéger le bateau facilement pour qu'il puisse attendre 2-3 ans la fin de l'opération. Parce qu'il faut bien compter sur 3 ans pour mettre en place une opération semblable, non pas à cause des travaux si je puis dire, mais parce que il faut travailler en amont, c'est-à-dire qu'il faut définir le projet, qu'est-ce qu'on va en faire. À quoi nous oblige ce qu'on veut en faire en termes d'aménagement? Je donne un exemple. Ça va être un établissement recevant du public. Les normes actuelles et les normes de l'époque ne sont pas du tout les mêmes. Donc il va y avoir des transformations à faire. Par exemple, à l'origine, je pense qu'il n'y avait qu'une passerelle, mais il est nécessaire qu'il y en ait deux pour qu'on puisse avoir un flux de circulation. Des choses comme ça qui changent la donne. Il va falloir l'alimenter en électricité, en eau, il va falloir retirer les eaux sales. Enfin, plein de petits problèmes comme ça. Par exemple, si c'est juste un lieu où il n'y a pas besoin de toilettes, pas de problème, pas besoin d'eau, pas besoin d'eau sale. Or, a priori, s'il y a du public, il vaut mieux qu'il y ait des toilettes, il faut mieux qu'elle ne salisse pas la Mayenne, etc., etc. Il y a tout un tas de problèmes de ce genre-là. J'en rajoute un. Quand on amarre un bateau d'une certaine... Ça fait 40 tonnes à peu près. Hein. Quand on amarre un bateau de 40 tonnes qui, en plus, a une bonne prise au vent sur un quai, si le quai n'est pas fait pour, ça emporte le quai. Il ne faut pas seulement considérer l'objet, il faut considérer son utilité. À partir de son utilité, faire une programmation, ensuite prévoir les travaux et son environnement. Il faut que le bateau rentre dans un environnement. Les personnes que j'ai rencontrées à la ville ont tout à fait cette approche de vue globale du problème. Quoi. Voilà. Et ce genre de travail, ben, c'est un travail par étapes et ça demande plusieurs mois, voire des années.
C'est pour ça, oui, comme vous le disiez, que ça va prendre du temps, on le sait. Et il y a une association, justement, qui alerte un peu en disant « Mais là, plus on attend, plus ça va être compliqué pour la restauration de ce bateau lavoir. » Vous pensez que là, dans l'état actuel, ça peut attendre de toute façon le temps qu'il faudrait pour vous, c'est-à-dire 2-3 ans peut-être ?
Oui, alors, il y avait à la réunion ce matin, il y avait des personnes de cette association ou de ces associations. On a discuté de ces questions-là. En fait, il faut pas oublier que c'est un bâtiment. Il n'est pas plus exposé là qu'il ne l'était à flot. Il est même plutôt moins exposé. C'est assez étonnant de voir ce bâtiment coupé en deux et posé dans une prairie, c'est sûr. Mais en fait, il est aussi exposé aux intempéries qu'avant. Or, un bâtiment, ça se protège soi-même. C'est une toiture, il y a des débords de toiture pour que l'eau ne coule pas le long des murs, etc. etc. Donc, à mon avis, il n'y a pas d'atteinte aux matériaux. Ou alors, elles sont vraiment minimes, parce que je n'ai pas numéroté chaque lame de bois. Mais le fait d'attendre 2 ans ou 3 ans, si on prend des précautions toutes simples, qui consistent par exemple à faire une pulvérisation d'un liquide qui va imprégner le bois pour le protéger, on est à peu près tranquille. Les dégradations sur 2 ou 3 ans vont pas aller plus vite que le volume, beaucoup plus vite en tout cas que le volume des restaurations à faire actuellement. Par exemple, le bateau a déjà été réparé. Vous avez vu qu'on voit que le bardage en haut est presque d'origine, en tout cas il est ancien, et par contre sur le mètre du bas, il a été remplacé. Tout simplement parce que l'eau en ruisselant à la longue fait pourrir par le pied. Et donc autrefois, il coupait et il remplaçait. Donc si ça nous arrive, ou bien on fait pareil et on dit c'est l'histoire du bateau, il porte lui-même ses cicatrices, ou bien alors on va essayer de masquer ça pour faire un truc idéal et c'est notre choix, on va dire qu'on le met dans l'état d'origine, mais bon, l'état d'origine, qui sait ce que c'est. Il y a une étude documentaire à faire avant. Les bateaux lavoirs, comme vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y en a plus que 3, et il y a très peu, il y a pratiquement rien d'écrit sur ces bateaux. Parce que c'était des constructions un peu secondaires, c'était pas des bateaux de charge. Et en plus, à cette époque-là, les savoirs, ça se transmettait oralement. C'est-à-dire que c'était le père qui apprenait à son fils, etc. On n'étudiait pas dans les livres, quoi. Donc il n'y a pas de traces. Et pourtant, ça serait bien de faire une collecte iconographique ou documentaire en amont du bateau qu'on ferait. En tout cas, en amont du flotteur, puisque c'est le flotteur qu'on ne connaît pas.
Ça fait partie des conseils, du coup, que vous avez délivrés aujourd'hui ?
Des avis, disons. des avis que j'ai échangés avec les responsables de la ville, techniciens et élus, et que j'ai présentés aussi aux personnes de l'association lors de la petite réunion de tout à l'heure.
Après cette réunion, est-ce que vous allez intervenir à nouveau ou là, votre travail est fait, entre guillemets ?
Quand je suis intervenu la première fois, c'était une mission en DRAC. La DRAC m'envoyait voir et rapporter. Là, je suis venu à la demande de la ville pour les aider dans la communication, enfin pour échanger avec eux, parce qu'il se trouve que j'ai participé à beaucoup d'autres projets et j'ai l'habitude de ce genre de trucs. Ben, si on me demande de revenir, je reviendrai, et avec plaisir. Mais pour l'instant, on ne m'a encore rien demandé. C'est possible qu'on me le demande, c'est possible. Mais je ne suis pas le seul. Si vous voulez, il va falloir des architectes aussi pour étudier la rigidité des locaux. Moi, je ne vais pas me lancer là-dedans. Mon avis sur le bateau me suffit. Je ne suis pas compétent, je ne suis pas architecte pour répondre sur les bâtiments. Apparemment, les élus et sont déterminés pour préparer une restauration qui aboutirait dans les échéances dont on a parlé, de 3 ans, quoi.
Donc effectivement, ça fait partie des 3 derniers bateaux lavoirs qui restent, sachant que le Saint-Julien, on le sait, est toujours là, déjà à quai à Laval. C'est vraiment important de maintenir cet rare héritage. Et vous disiez qu'en plus, il y avait très peu de documents aussi qui avaient été faits sur ce type de bateau.
Alors, les objets n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est le sens qu'on leur donne. Alors, c'est important, c'est pas moi de le décider, ni à l'objet, c'est aux gens qui gèrent le projet. C'est eux qui donneront le sens à ce bateau-là. De quoi est-ce qu'il témoigne, qu'est-ce qu'il signifie, à quoi il sert de nouveau, peut-être qu'il peut servir à autre chose que ce à quoi il était utilisé à l'origine. Mais, et c'est ça qui me rassure personnellement, c'est que ces personnes-là prennent en compte à la fois le contexte matériel, enfin l'emplacement, l'environnement, et le temps, l'histoire, la chronologie. Je vais vous donner un exemple. Si ce sont des bureaux qui sont installés là-dedans, il va falloir de l'isolation pour ne pas avoir froid. Je vous rappelle, les murs font 20 mm. Hein. Pour ne pas avoir froid, il faudra de l'isolation. Dans le cadre de la restauration, l'isolation, on ne connaît pas. Ça veut dire que l'isolation ne sera pas financée par la culture. Donc encore une fois, tout dépend de ce qu'on met dans le projet.
Et affaire à suivre, bien sûr, même si on a déjà une petite idée de ce que va devenir ce bateau lavoir, le Saint-Yves, il devrait être normalement transformé en annexe de l'office de tourisme, donc près de la halte fluviale à Laval, d'ici 2025 ou 2026.
Pendant la nuit, les paradis s'effacent, les masques tombent. pour célébrer le néant et la folie. Dans cette énigme qu'on appelle la vie, j'ai envie de courir.
C'était Paradigme, issu de l'album du même nom de La Femme, sorti en 2020. C'est ce que vous venez d'entendre dans la JT du local sur l'autre radio. On va passer tout de suite à notre cycle de reportages pensée locale pour s'intéresser aujourd'hui à ce qu'on appelle dans le jargon la PHR, la presse hebdomadaire régionale, avec en Loire-Atlantique notamment un titre, Le Courrier du Pays de Ré, qui existe depuis bientôt deux siècles et représente pour les historiens une véritable archive du pays de Ré, alimentée aujourd'hui par des journalistes et pas moins de 26 correspondants locaux. Je vous propose d'écouter ce reportage signé Jade FM.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Parmi les acteurs locaux, la presse locale est un organe essentiel pour porter l'information, mais aussi représenter son territoire. Plus encore, c'est un facteur de lien social.
On est sur Internet depuis 2015 avec un grand virage en 2019 avec le lancement d'actu.fr. C'est une marque qui a été lancée par notre groupe de presse. On est bimédia en fait, voilà.
Dans le pays de Ré, qui ne connaît pas le courrier du pays de Ré? Pour les anciens, le courrier de Paimboeuf. L'hebdomadaire du vendredi est vendu entre 10 000 et 40 000 exemplaires papier, dont un tiers des lecteurs sont abonnés. Et grâce au site actu.fr, c'est devenu un bimédia où là, 500 000 à 1 million de lecteurs se présentent sur le net. Pour faire de l'information locale, il faut être sur le terrain. Le courrier comprend 26 correspondants locaux, lesquels habitent ce territoire et vivent le même quotidien que leurs lecteurs.
Le correspondant local, comme son nom l'indique, est vraiment localiste, c'est-à-dire qu'il refait remonter toutes les informations qui sont relatives à sa commune ou à son territoire. Globalement, nous sommes un peu les témoins de la vie d'une commune.
Les journalistes et correspondants nous parlent avec passion de l'apport de leur métier au bien-être local. Merci à Hervé Pinson, rédacteur en chef, Marion Vallée, Simon Mauviel, Aurélie Benoît et Boris Chauvet, qui ont bien voulu être interviewés à leur tour pour la radio locale.
On vit là, on consomme là, on partage les problématiques des habitants, on vit les mêmes choses pratiquement que nos lecteurs, donc on est aussi amené à se rendre compte des réalités en fait de leur quotidien, voilà, et d'être proche de leurs préoccupations.
Et je pense que là, les correspondants locaux ont un rôle moteur. C'est un petit peu en quelque sorte nos yeux et nos oreilles sur le terrain, sur leur commune. De par leur proximité géographique, ils vont nous remonter des informations de leurs voisins, des élus, sur des initiatives, sur des choses qui vont mal aussi, des projets contestés. Et c'est là qu'essentiellement, une remontée d'infos, au-delà d'écrire des articles, ils sont aussi là pour nous aiguiller vers des problématiques de secteur, quoi.
On constate ici encore que le local et le global sont toujours liés.
Là, on a contribué, nous, sur les cancers pédiatriques. Donc on a apporté notre contribution dans cette enquête et du coup cette enquête a été diffusée sur l'ensemble des publications d'actu.fr et voilà donc le Pays de Ré alors a rayonné avec l'initiative notamment des parents qui ont fait le collectif la Stop au cancer de nos enfants. Ça a rayonné sur l'ensemble de la France en fait, hein, et au-delà.
Rural, estival, côtier, périurbain, la diversité de ce territoire présente des avantages et des inconvénients. Toucher et s'adresser à un maximum de monde, à commencer par la une, mais aussi se distinguer des médias nationaux.
C'est pas toujours évident, parce que les intérêts des uns sont pas les mêmes que ceux des autres. Donc on essaye de trouver un peu chaque semaine des sujets qui vont un petit peu interpeller ou fédérer voilà, les lecteurs, en tout cas autour de certaines problématiques.
Toutes les semaines, il y a un portrait, toutes les semaines, il y a une initiative qui est mise en valeur. Alors, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, évidemment, mais on est aussi un journal de bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'on va mettre vraiment en valeur les habitants, leurs actions.
Comment on peut aider les gens à mieux vivre, voilà, dans leur environnement. On est un peu divisé, dit Aurélie. Des porteurs de bonnes nouvelles, dit Boris. Et c'est exactement ça, en fait.
Et enfin, le journal local est aussi une forme d'archive d'un lieu. Passions et passionnés se retrouvent.
D'une certaine manière, on a un petit peu la mémoire historique du Pays de Ré. D'ailleurs, il y a pas mal d'historiens qui viennent consulter nos archives pour leur publication.
Je me dis qu'on est porteur de la vie sociale, de la vie locale, du patrimoine. On est porteur de quelque chose et on est des messagers. Même moi, j'aime bien ça. J'aime bien, c'est très simple. Hein.
Il y a suffisamment de mauvaises nouvelles dans le monde pour pouvoir se dire qu'à côté de chez nous, on a quand même de belles initiatives.
Beaux projets.
Des jolies choses qui se passent.
On peut parler des informations nationales ou internationales, mais par le biais, on fera l'inverse. On fera l'entonnoir inverse, c'est-à-dire on partira du local pour parler d'un sujet qui peut toucher le national ou l'international. Ça nous est déjà arrivé.
On commence pour soi, ouais. On finit pour les autres.
Ah, c'est beau.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Une réalisation de Frédéric Mispelblom et Valérie Lechrome pour Jade FM, la radio du Pays de Ré.
Que vous pouvez bien sûr réécouter aussi sur notre site l'autreradio.fr, tout comme les autres reportages de ce cycle Pensée locale. On va poursuivre pour le coup avec notre feuilleton cette semaine sur les associations, quelques associations, pas toutes forcément, il a fallu faire des choix, du collectif UND Unissons nos différences qui organise pendant tout ce mois de mars, les semaines d'éducation contre les discriminations. Et donc parmi elles, l'association Castandi, fondée à Laval en 2008, sa mission, l'inclusion des personnes en situation de handicap dans différents événements culturels, que ce soit des concerts, du théâtre, du cinéma ou même des événements sportifs. Sophie Ourdier est salariée de l'association Castandi et nous donne quelques exemples justement de ces événements.
On accompagne le motocross en fait pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite essentiellement. Donc on les aide à construire un cheminement pour entre l'arrivée entre les personnes quand elles arrivent au guichet et l'installation sur une zone dédiée si elles le souhaitent. Si elles souhaitent pas être accompagnées, si elles souhaitent être au milieu de la foule, elles ont la liberté d'aller là où elles veulent en fait. Alors, Castandi cible tous les handicaps. On va proposer un accompagnement autant aux personnes à mobilité réduite, pour les personnes aveugles ou malvoyantes, pour les personnes malentendantes ou sourdes, et aussi un accompagnement pour les personnes ayant des troubles psychiques. Par exemple, pour les personnes malentendantes ou aveugles, on va pouvoir proposer du matériel d'audiodescription. Il y a un émetteur qui est placé en régie et une personne qui est aussi au niveau de la régie, qui est en retrait. Et cette personne, en fait, dans un casque audio, va décrire les éléments de la scène. Et la personne qui est malvoyante ou aveugle, qui aura le casque, dans son casque, au moment où il n'y a pas de texte donné au niveau de la scène, elle va entendre la description que lui fera la personne qui est en régie. On a pu proposer les boucles magnétiques individuelles. Donc là, ce dispositif est destiné aux personnes malentendantes ou sourdes. Et on a pu aussi mettre à disposition les sub-packs. Les sub-packs, ce sont des sacs à dos vibrants qui permettent de ressentir la musique par le biais de vibrations, plus particulièrement les basses. Comme c'est un petit sac à dos, c'est facilement transportable, c'est léger, c'est mobile. C'est plus destiné aux personnes malentendantes ou sourdes ou les personnes avec une déficience mentale. Oui, ça commence à être connu un petit peu. Donc, on travaille beaucoup avec les associations au niveau du département. Il va y avoir un concert de Pierre Boubier à la médiathèque de Mayenne. On va avoir le Festival des Trois Éléphants, le Festival des Mouillotins, au foin de la rue qui nous accompagne et depuis déjà de nombreuses années. Le Festival du Jazz à Mélay-du-Maine, le Festival du Premier Roman à Laval. On a aussi les Nuits de la Mayenne où on va être vraiment sur tous les spectacles des Nuits de la Mayenne donc pendant l'été. Donc, beaucoup de manifestations.
Et si vous voulez rejoindre l'équipe déjà constituée d'une cinquantaine de bénévoles, vous pouvez contacter Sophie Ourdier au 07 82 43 37 18 ou par mail à castandi@gmail.com, sachant que chaque nouveau bénévole bénéficie d'une sensibilisation de 3 heures avant de commencer ses missions. C'est la fin de notre émission L'Agité du local pour ce jeudi. À 19h, ne manquez pas Le Masque et la Tronçonneuse avec aujourd'hui des méchants très méchants. Ce sera le sujet de l'émission. Ce sera suivi à 21h de Quand la musique est bof avec la bande originale du film Batman. Et nous, on se retrouve demain. Je vous souhaite une très belle journée.